Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons cette très importante série au sujet de l'importance de la rédemption. Et nous arrivons à l'étude numéro 51. Le titre pour aujourd'hui sera « La guérison divine dans l'Église aujourd'hui ». À travers la Bible, nous voyons la preuve que la guérison divine est pour nous qui croyons. Dans Deutéronome, au début de votre Bible, chapitre 28, par exemple, là nous voyons les bénédictions de Dieu quand le peuple gardait ses commandements et les malédictions dans le cas contraire. Le verset 61 donne une liste des conséquences quand la loi de Dieu n'était pas respectée. Prenons Deutéronome, chapitre 28, verset 61. Là, il est dit que l'Éternel fera même venir sur toi toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont pas mentionnées dans le livre de cette loi jusqu'à ce que tu sois détruit. C'est donc plus que sérieux tout cela, et ça inclut toutes les plaies nouvelles qui sont dues d'une part à la pollution, d'autre part à notre irrespect de tout l'équilibre de cette planète. Et donc on peut bien comprendre que tout ça concerne le péché, mais l'égoïsme et de vouloir tout diriger et tout posséder à l'insu, ou plutôt contre les autres qui ne peuvent pas avoir les mêmes puissances pour contrecarrer, eh bien tout ça c'est des péchés, qu'on le veuille ou non. Voyez ? Alors prenons Galates chapitre 3 verset 13, parle là, ça nous parle des droits, et ça nous parle des privilèges que nous pouvons avoir en Christ, y compris le rachat de la malédiction de la loi. Donc la malédiction de la loi que nous venons de voir dans le Deutéronome, eh bien, Christ, quand il a donné sa vie pour nous, pour être sacrifié à notre place, pour nous sauver, eh bien, il a racheté toute cette malédiction qui, au fond, pourrait nous accabler fortement. En effet, Christ a payé le prix pour chaque maladie et pour chaque plaie pour nous dans notre rédemption. Il est dit « qui guérit toutes tes maladies ». C'est le psaume 103, verset 3. Spirituellement parlant, il y a fondamentalement trois catégories de personnes dans le monde aujourd'hui. Premièrement, il y a ceux qui refusent le sang de Jésus comme étant le seul moyen pour obtenir le salut. Il y en a qui refusent le salut, qui est pourtant le plus important de tout, puisque c'est par le salut que nous pouvons échapper à quelque chose à ne pas désirer pour le pire de nos ennemis. Deuxièmement, ceux qui limitent le sang de Jésus au salut seul et qui excluent, bien entendu, la guérison. Ce sont, en d'autres termes, ceux qui s'arrêtent à la phrase qui dit ceci. Dieu efface toutes nos iniquités. Psaume 103, verset 3. Et là, tous vont dire Alléluia, Amen. Mais ils ignorent qu'il y a une suite, et cette suite nous dit et qui guérit toutes tes maladies. Donc il faudrait lire ou dire ce verset en entier pour être sincère et correct. Il est donc dit, l'Éternel efface toutes nos iniquités, psaume 103, verset 3, et qui guérit toutes tes maladies. Ils ont donc du mal, certaines personnes, à considérer Christ comme celui qui les guérit. Il est leur sauveur, tout à fait, mais ils ne croient pas ou ils ont été mal enseignés sur son pouvoir de les guérir. Plutôt, ils ont été mal enseignés. C'est donc pas de leur faute. Troisièmement, il y a ceux qui acceptent la Bible comme étant la sainte parole de Dieu et qui croient que Jésus nous rachète du péché et de nos maladies. Ils croient que la rédemption inclut les bénédictions de Dieu, c'est-à-dire le salut, la guérison et la protection dont nous devons bénéficier sur la terre. Ils sont heureux ceux qui ont compris cette façon de pouvoir comprendre la sainte parole de Dieu telle qu'elle est. Telle qu'elle est. La Sainte Bible, voyez-vous, elle est très explicite sur le fait que l'œuvre rédemptrice de Christ englobe la guérison divine aussi bien que le pardon des péchés. C'est important de comprendre cela. Je répète, la Sainte Bible, elle est très explicite sur le fait que l'œuvre rédemptrice de Christ, que cette œuvre englobe la guérison divine aussi bien que le pardon des péchés. Si donc nous acceptons la rédemption, nous incluons toutes les composantes. Certains chrétiens font le tri parce qu'ils sont comme ça et ils choisissent des versets qu'ils s'attribuent en disant que c'est la volonté de Dieu pour eux et ils en rejettent d'autres en disant que ce n'est sûrement pas la volonté de Dieu pour eux aujourd'hui. C'était peut-être vrai pour les anciens, mais en tout cas pas pour aujourd'hui. Eh bien, une telle attitude reviendrait donc à jeter la Sainte Bible tout entière, car si certains versets ne sont pas vrais, eh bien la Sainte Bible non plus ne sera pas vrai, je sais pas moi, ne l'est pas du tout non plus. Mais Dieu soit loué, la Bible dans son ensemble est vraie. La guérison est pour tous, car Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il fait pour quelqu'un, eh bien, il le fait pour vous. Et nous pouvons être assurés que c'est la volonté de Dieu de nous guérir, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Nous avons vu la guérison dans le statut de guérison que Dieu a établi pour son peuple en Exode chapitre 15, verset 26, en gardant sa loi et en obéissant à sa sainte parole. Nous avons également vu la guérison dans les bienfaits de la rédemption que Dieu a pourvu pour son peuple. Nous savons que Dieu ne change jamais et que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Malachie, chapitre 3, verset 6, et ajoutez Hébreux, chapitre 13, verset 8. Donc, nous devons réaliser que la guérison est autant pour nous aujourd'hui qu'elle ne l'était pour les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. La guérison est tout autant pour nous qu'elle ne l'était pour ceux qui vivaient au temps du Nouveau Testament, quand Jésus était sur terre. et la guérison est tout autant pour nous aujourd'hui qu'elle ne l'était pour l'Église primitive. Cependant, c'est bien entendu à nous de recevoir ou non, et cela par la foi, ces choses qui nous appartiennent en Christ. C'est lorsque nous confessons sans cesse la sainte parole de Dieu et que nous croyons que nous recevons les bénédictions dont nous avons besoin, et c'est là que le déclic de la foi se met en route et que la puissance de Dieu est libérée dans nos vies. Dieu fera que sa sainte parole devienne bonne dans nos vies si nous la croyons et surtout si nous nous appuyons sur elle pour agir. Chers amis, Jésus est notre exemple. Donc, puisque Jésus croyait en la guérison divine et qu'il prêchait que la guérison est la volonté de Dieu pour nous, nous devrions croire et prêcher la même chose. Nous avons lu dans la Sainte Bible le récit des guérisons accomplies par le Seigneur, et c'était l'un des points les plus distinctifs de son ministère, et cela au même titre que son enseignement. En fait, il devait d'abord enseigner la foule pour faire naître la foi et pour la conduire au point où elle pouvait recevoir la guérison. Nous savons que la foi vient en écoutant la sainte parole de Dieu. Christ a proclamé le message de l'Évangile en allant de lieu en lieu. Notez Romains chapitre 10, verset 17, ainsi que Saint Luc chapitre 4, verset 18. Il est dit dans Saint Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour rendre la vue aux aveugles et pour envoyer libres les opprimés. » Non seulement Jésus enseignait, mais la Sainte Bible nous dit aussi que l'Esprit du Seigneur était sur Jésus pour prêcher la bonne nouvelle. Saint Luc, chapitre 4, verset 18, c'est le message que Jésus a proclamé quand il allait dans les synagogues pour enseigner et prêcher. L'enseignement et la prédication de l'Évangile incluent aussi l'enseignement et la prédication au sujet de la guérison divine, comme nous pouvons le constater dans Saint Luc, chapitre 4, verset 18. Tout cela parce que le message de l'Évangile est aussi un message de guérison. Une autre preuve que la guérison était un des points les plus distinctifs du ministère de Jésus, c'est que Jésus démontrait ce qu'il enseignait et prêchait par les signes qui l'accompagnaient. Voyez-vous? Donc, il est un fait que du temps de Jésus, il y avait d'autres enseignements et d'autres enseignants. Par exemple, les rabbins, ou on appelle aussi les docteurs de la loi, étaient d'autres enseignants. Ils étaient très instruits, oh là là, surtout en ce qui concernait la loi juive, et ils enseignaient donc dans les synagogues aussi. Mais ce qui différenciait l'enseignement de Christ des leurs, c'est la puissance et la démonstration du Saint-Esprit dans son ministère. La Sainte Bible dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Vous pouvez noter Saint Matthieu, chapitre 4, verset 23. Il y avait des signes particuliers et surnaturels qui comprenaient la guérison et les miracles qui accompagnaient le ministère de Jésus quand il proclamait la parole de Dieu. Toutefois, bien qu'il proclamait partout où il allait que l'Esprit de Dieu était sur lui pour guérir, il y avait quand même des personnes qui rejetaient son message. Par exemple, lorsque Jésus guérit le paralytique que quatre personnes avaient descendu par le toit, la Sainte Bible dit « La puissance du Seigneur était présente pour les guérir tous » Saint Luc chapitre 5 verset 17. En d'autres termes, la puissance guérissante de Dieu était présente, mais seul le paralytique a été guéri. Il a reçu sa guérison par la foi. Même Jean-Baptiste, qui l'avait annoncé, s'est demandé si Christ était bien celui qu'il devait attendre. Si vous vous rappelez, quand Jésus est venu au Jourdain pour se faire baptiser par Jean, Jean lui-même a dit « Mais c'est moi qui a besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Saint Matthieu chapitre 3 verset 14. Et alors le Saint-Esprit descendit comme une colombe sur Jésus, et une voix est venue du ciel qui disait « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Saint Matthieu, chapitre 3, versets 16 et 17. En d'autres termes, Jésus savait et déclara ouvertement que Jésus était le Christ. Et Jean-Baptiste fut celui qui dit aussi auparavant, « Un plus grand que moi vient, et je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. » Saint Luc chapitre 3 verset 16. Cependant plus tard, lorsque Jean-Baptiste fut emprisonné par Hérode, il envoya deux de ses disciples pour demander à Jésus « Es-tu vraiment celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Or le doute est un des plus grands ennemis de la foi. Remarquez comment Jésus a répondu aux disciples de Jean quand ils ont demandé « Es-tu le Christ ?» Jésus cita son ministère de guérison comme mettant la preuve qu'il était bien le Messie. Notez Saint Matthieu chapitre 11 versets 4 et 5. Là il est dit « Allez, annoncez à Jean ce que vous entendez et voyez les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. » Ensuite, il dit que les morts ressuscitent et surtout que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jean-Baptiste avait donc besoin d'être rassuré dans sa foi en Jésus comme étant le Messie. Jésus lui a donné pour réponse les miracles qu'il avait accomplis. La Sainte Bible dit « La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la Sainte Parole de Dieu. » Romains chapitre 10, verset 17. Et voilà pourquoi. Voilà pourquoi Jésus envoya dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La guérison est donc un des signes qui suit la prédication de l'Évangile. Dans son ministère terrestre, Christ a prêché l'Évangile. Ce n'est donc pas étonnant de voir les signes, les miracles et les prodiges puissants qui ont accompagné son ministère. La Sainte Bible enseigne que la prédication de l'Évangile va mettre en action la puissance de Dieu et que l'onction sera présente pour guérir. Nous pouvons voir que Jésus agissait avec une forte onction de guérison dans son ministère terrestre, parce qu'il allait de village en village, proclamant l'Évangile, et en conséquence, la puissance de Dieu était tout le temps en œuvre. Il est dit en Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, « Comment Dieu a moins d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. » En lisant ce verset, certains diront, cela veut-il dire que tous ceux qui sont malades ont un démon ou un esprit mauvais? Non, mais absolument pas. Quand quelqu'un est malade, cela ne veut pas forcément dire qu'il a un démon. N'exagérons rien. Il peut y avoir, par contre, un mauvais esprit qui oppresse une personne et qui aggrave la maladie. Mais il n'en est pas nécessairement ainsi dans chaque cas. Toutefois, nous savons que tout ce qui est mauvais vient forcément de l'ennemi et que tout ce qui est bon vient de Dieu. Nous savons que la Sainte Bible dit « Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Or moi, Jésus, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Je répète, nous savons que la Sainte Bible dit « Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et pour détruire. Or moi, Jésus-Christ, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » C'est écrit dans Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Donc, il n'est pas faux de dire « Jésus-Christ est le remède éternel. » Jésus avait non seulement un ministère de guérison, mais il a aussi porté nos péchés. Il a aussi porté nos péchés et nos maladies sur la croix. Plus de 700 années avant la venue de Christ, le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé tout cela dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Par sa mort, Jésus a accompli cette prophétie, non seulement par sa mort, mais par sa mise au tombeau et par sa résurrection. Et comme nous le voyons dans le livre des Actes, ils se sont appuyés sur cette révélation pour guérir les malades au nom de Jésus. L'apôtre Pierre l'apôtre Pierre était rempli de la puissance de Dieu à un tel point que lorsqu'il passait en longeant les rues, croyez-le ou pas, son ombre, en descendant sur les malades, les guérissait. Actes chapitre 5, verset 15. Chers amis, nous avons vu la guérison dans l'Ancien Testament et dans le plan de rédemption de Dieu. Puis nous avons vu que Jésus, c'est notre exemple, il exerce la guérison divine dans son ministère terrestre. Maintenant, regardons la guérison dans le ministère des apôtres et des disciples, et nous verrons également que Jésus a donné à l'Église le pouvoir de prier pour les malades en son saint nom. Il est dit en saint Matthieu, chapitre 10, verset 1, « Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Premièrement, prenez Saint Marc, chapitre 6, versets 12 et 13. « Ils, les disciples de Jésus, prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » Deuxièmement, notez Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et troisièmement, notez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Les disciples ont pu prier pour les malades parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit Saint selon Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14. Chers amis, écoutez un épisode extraordinaire qui se trouve dans Actes, chapitre 3, versets 1 à 8. Voilà que, ensemble, l'apôtre Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelée la porte de la bienvenue, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda l'aumône. L'apôtre Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, une petite pièce. Mais l'apôtre Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit se lever, et à l'instant, ses pieds et ses chevilles sont devenus fermes. D'un bond, il a pu se mettre debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Oui, chers amis, le saint nom de Jésus, prononcé par eux, guérit un pauvre paralytique. Les guérisons étaient demandées par le saint nom de Jésus, car Jésus seul avait donné aux disciples le pouvoir et l'autorité pour guérir les malades en son saint nom. Ce pouvoir et cette autorité n'étaient pas réservés aux seuls 12 disciples. Par exemple, dans Saint-Luc chapitre 10, Jésus envoie 70 disciples et il leur donne des instructions pour guérir les malades quand il les envoie deux par deux. On peut dire que c'est merveilleux. Et il les envoie dans les villages et dans les villes. Et nous pouvons donc voir que Jésus envoie aussi l'Église du Seigneur Jésus-Christ et lui donne autorité, oui, à tous les croyants pour guérir les malades en son saint nom. Notez Saint Matthieu, chapitre 10, verset 1. Il est dit, « Et puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Remarquez qu'il est dit que Jésus donna aux disciples le pouvoir pour guérir toute maladie et toute infirmité. Toutes sortes de maladies et d'infirmités incluent tout mal mineur qui puisse être cité, ainsi que toute maladie ou infirmité grave, y compris les maladies en phase terminale. Quelqu'un pourrait maintenant dire, oui, mais c'était uniquement les 12 disciples et personne d'autre. Ils avaient donc reçu une onction spéciale de la part de Jésus. Bien sûr, ils pouvaient guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités, mais l'onction pour la guérison, elle ne fut pas donnée exclusivement aux 12. Ce n'est pas vrai, cela. Par exemple, en Saint-Luc, au chapitre 10, Jésus a envoyé 70 autres disciples. Il ne faudrait pas oublier cela. Et il leur a donné des instructions pour guérir les malades et pour les envoyer dans les villes deux par deux. Écoutez ce qui est écrit en Saint-Luc, chapitre 10, verset 1, verset 8 et verset 9. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres, et il les envoya devant lui, deux par deux, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Jésus leur dit, « Dans quelque ville que vous entrez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, même si c'est, et j'ajoute moi-même, de la cochonnade. » Excusez-moi. « Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Puis dans Saint Marc au chapitre 16, nous voyons que Jésus donne le grand envoi à toute l'Église, oui, à tout le corps entier de Christ, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alléluia! Le grand envoi inclut donc la guérison des malades par l'autorité du Saint-Nom de Jésus. Jésus leur dit en Saint-Marc, chapitre 16, versets 15 et 16, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera, hélas, condamné. Alors, si nous examinons le livre des Actes, nous constatons que la guérison divine était une partie intégrante du ministère de l'Église primitive. L'apôtre Paul, un des puissants dirigeants de l'Église primitive, déclarait en Romains chapitre 15, verset 19, « Par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit Saint, j'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. » Faut-il le répéter ? Par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit Saint, j'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. La guérison et leur miracle suivent donc la prédication de l'évangile. Et comme l'Église du Seigneur Jésus-Christ est fidèle pour prêcher, la Sainte Parole, c'est-à-dire des signes et des prodiges, peuvent évidemment également suivre. Le livre des Actes nous montre, ainsi que les Épîtres et l'histoire de toute l'Église, que la guérison a toujours été une caractéristique distincte de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Jésus disait, « Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. » Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Chers amis, pour éviter tout orgueil, le Seigneur me demande d'ajouter quelque chose d'important avant de terminer par la prière. Il est un air que la chorale aime beaucoup. On chante « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Mais ces paroles ne sont pas une promesse automatique et sans aucune condition. En lisant Exode chapitre 15, verset 26, on s'aperçoit que la promesse de Dieu pour la guérison est au conditionnel. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu te tiens à tous ses préceptes, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Combien il est nécessaire d'écouter l'Esprit Saint d'une oreille sensible, tandis qu'il nous conduit à travers le problème qu'il confronte la personne à la source intérieure ou à la vraie guérison qui est attendue. Je répète, il est un air que toutes les chorales à travers le monde aiment beaucoup. Je suis l'Éternel qui te guérit. I am the Lord who heals you. Mais évidemment que ces paroles ne sont pas une promesse automatique et sans aucune condition, car il faudrait quand même se rappeler Exode chapitre 15, verset 26, qui se trouve aussi dans les Saintes Écritures. Et là, on s'aperçoit que la promesse de Dieu pour la guérison est au conditionnel. Car il est dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu te tiens à tous ses préceptes, je suis l'Éternel qui te guérit. » combien il est nécessaire d'écouter l'Esprit Saint d'une oreille sensible, tandis qu'il nous conduit à travers le problème, qu'il confronte la personne à la source intérieure où la vraie guérison est vraiment attendue. Et je continue. Je ne connais au monde aucun centre de guérison où chaque personne est guérie instantanément. Ainsi, Francis McNutt, une des plus grandes figures du ministère de la guérison chrétienne, reconnaît que parmi tous les souffrants pour lesquels il prie, environ un seul sur deux douzaines qui sont guéris instantanément ou miraculeusement. D'autres reçoivent leur guérison après un certain délai, alors que d'autres ne guérissent apparemment pas du tout. Par conséquent, on ne doit pas trop s'inquiéter que la guérison d'une personne ne soit pas immédiatement apparente. Je répète cela parce que c'est très important. Je connais au monde aucun centre de guérison, aucune église, où chacun sera guéri instantanément. Et c'est ainsi que Francis McNutt, un des plus grandes figures du ministère de la guérison chrétienne, reconnaît que parmi tous les souffrants pour lesquels il prie, environ un seul sur deux douzaines guérit instantanément ou miraculeusement. Un seul. D'autres, il est vrai, reçoivent leur guérison après un certain délai, alors que d'autres encore ne guérissent apparemment pas du tout. Par conséquent, on ne doit pas trop s'inquiéter que la guérison d'une personne ne soit pas immédiatement apparente. Chers amis, nous allons maintenant terminer par la prière. Étant donné que dans notre actuelle civilisation, l'être humain est plus que jamais sujet de tomber malade avec tout ce qui se passe autour de nous. Il ne faut pas être trop étonné. Hein? Même les poissons dans les mers, avec des milliers de tonnes de déchets les plus terribles, sont contaminés. Il y a des peuples, des millions de personnes qui vivaient autrefois par la pêche, sont en train de mourir de faim. Raison pour laquelle le Seigneur désire que je vous soumette des prières qui sont inspirées par son Esprit Saint pour vous permettre de les utiliser à vous, selon vous, et de les adapter à votre propre situation personnelle. Donc vous pouvez changer les phrases que je vous guide, parce que la prière que l'Esprit-Saint me donne pour vous, c'est pour vous aider à formuler vos propres prières en ce qui concerne votre propre problème. C'est important de comprendre cela. Alors, voici la prière que l'Esprit-Saint me donne pour vous aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci, tu as donné ton Fils bien-aimé, et nous pouvons dire de tout cœur, oui, Jésus-Christ est venu pour nous donner la chose la plus importante pour notre existence présente, mais surtout pour l'éternité qui concerne le salut, le salut de notre âme et de notre esprit en premier. Ensuite, tu nous demandes, avec ton amour incommensurable, veux-tu être guéri? Nous te demandons pardon de nos doutes et de notre scepticisme. Et je dis maintenant, pour tous ceux qui ont écouté ce message, que j'ordonne solennellement, dans la puissance et dans le puissant nom de Jésus-Christ, que soit chassé tout doute, tout scepticisme et toute incrédulité. Yahvé l'Éternel a montré son amour, pas seulement à Moïse, mais également à nous par Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur, car tu guéris maintenant tous ceux qui humblement t'invoquent de tout leur cœur, et je répète, qui t'invoquent de tout leur cœur, de bien vouloir les restaurer, corps, âme et esprit. Nous te remercions pour ta compassion, et nous ne voulons surtout jamais oublier de te demander pardon de tous nos péchés. Et nous te demandons également pardon pour tous ceux à qui nous avons fait du mal, même ce qui a pu être fait involontairement. Merci Seigneur de nous avoir écoutés et exaucés. En ton saint nom, ainsi soit-il. Amen. Amen.